Le joueur, chapitre 9. Sur le perron de l'hôtel se tenait la babouchka. On l'avait apportée dans un fauteuil. Elle était entourée de valets et de servantes. Le majordome était allé en personne à la rencontre de la nouvelle venue, qui amenait ses domestiques personnels et des voitures encombrées de bagages. Oui, c'était elle-même. La terrible, la riche Antonida Vassilievna Tarasevitcheva, avec ses 75 ans. C'était bien la Pomietchitsa, la Barina de Moscou, la Baboulinka, pour qui l'on avait tant fait jouer le télégraphe, toujours mourante, jamais morte. Elle arrivait à l'improviste, comme il pleut, comme il neige. Privée de l'usage de ses jambes, elle était venue dans son fauteuil, que depuis 5 ans elle n'avait jamais quitté. Vivante pourtant, contente d'elle-même, se tenant droite, le verbe haut et impératif, grondant toujours, toujours en colère. En un mot, tout à fait la même personne que j'avais eu déjà l'honneur de voir 2 fois depuis que j'étais au service du général en qualité d'utchit. Je me tenais devant elle, immobile, comme pétrifiée. Elle me regarda de ses yeux perçants. Elle m'avait reconnue et m'avait appelée par mon nom et celui de mon père. Et c'était cette vivace créature qu'on croyait déjà dans la bière et qu'on ne considérait plus que comme un héritage. Elle nous enterrera tous, pensais-je, et l'hôtel avec nous. Et les nôtres maintenant, que deviendront-ils ? Le général, elle va mettre tout l'hôtel sans dessus-dessous. Eh bien, mon petit père, pourquoi te tiens-tu ainsi devant moi, les yeux écarquillés ? Me cria la babouchka. Tu ne sais donc pas souhaiter la bienvenue ? Ou bien ne m'as-tu pas reconnu ? Entends-tu, Potapitch ? Dit-elle à un petit vieillard orné d'une cravate blanche étalée sur un frac, et d'un crâne déplumé, son majordome, qu'elle avait emmené avec ses bagages. « Entends-tu ? Il ne me reconnaît pas. On m'a déjà couché dans mon tombeau. On envoyait télégramme sur télégramme. Morte ou pas encore ? Je sais tout. Pourtant, je suis encore de ce monde. Mais permettez, Antonida Vassilievna, pourquoi souhaiterais-je votre mort ? Répondis-je assez gaiement et revenu de ma stupeur. « J'étais seulement étonnée. »« Qu'y a-t-il donc de si étonnant ? J'ai pris le train, je suis partie. On est très bien dans le train. Tu es allée te promener ? » ?»« Oui, je reviens de la gare. »« Il fait bon ici et chaud, et quels beaux arbres. J'aime cela. Les nôtres sont-ils à la maison ? Où est le général ? À la maison, certainement, à cette heure-ci. Ah, ils ont leurs heures. Que de cérémonies. C'est le grand genre. N'ont-ils pas leur voiture, ces grands seigneurs ? Une fois leur fortune gaspillée, ils sont allés à l'étranger. Et Praskovia aussi est avec eux ? Oui, Paulina Alexandrovna est ici. Et le petit français ? Enfin, je les verrai tous moi-même. Alexis Ivanovitch, montre-moi le chemin. Mène-moi vers eux. Et toi, te trouves-tu bien ici ? Comme si, comme ça, Antonida Vassilievna. Et toi, Potapitch, dis à cet imbécile de maître d'hôtel qu'on me donne un appartement commode. Pas trop. Tu y feras porter les bagages. Et qu'ont-ils tous à vouloir me porter, tas d'esclaves ? Et qui est avec toi ? Monsieur Ashley, répondis-je. Et quel monsieur Ashley ? Un voyageur, un de mes amis, et il connaît aussi le général. Un Anglais ? C'est bien ça. Il ne lève pas les yeux de dessus ma personne et ne desserre pas les dents. D'ailleurs, je ne déteste pas les Anglais. « Maintenant, portez-moi à l'appartement du général. » on enleva la babouchka. Je m'engageai le premier dans le large escalier de l'hôtel. Notre marche était très solennelle. Tous ceux qui nous rencontraient s'arrêtaient sur notre passage et nous regardaient de tous leurs yeux. Notre hôtel passait pour le meilleur, le plus cher et le plus aristocratique de l'endroit. Dans le corridor, nous passions auprès de dames élégantes et de richissimes lords. Plusieurs demandaient au maître d'hôtel des renseignements sur l'inconnue, qui semblait elle-même très impressionnée. Il ne manquait pas de répondre que c'était une étrangère de marque, une russe, une comtesse, une grande dame, qui allait prendre l'appartement occupé 8 jours auparavant par la duchesse de N. La mine orgueilleuse de la babouchka produisait surtout grand effet. Elle regardait du haut en bas, curieusement, tous ceux qui passaient près d'elle, les toisait et demandait à haute voix « Qui est-ce ?» Elle était de haute taille. Cela se devinait, quoiqu'elle ne se levât pas de son fauteuil. Son dos était droit comme une planche et ne touchait pas le dossier. Sa tête grise, aux traits accentués, se dressait orgueilleusement sur son cou. Il y avait de l'arrogance et même de la provocation dans son regard. Mais ni dans son regard ni dans son geste, on ne démêlait aucun artifice. Malgré ses 75 ans, elle avait le visage frais et presque toutes ses dents. Elle portait une robe de soie noire et un bonnet blanc. « Elle m'intéresse extrêmement !» me dit tout bas M. Ashley en montant à côté de moi. « Elle connaît l'histoire des télégrammes, » lui répondis-je. « Elle connaît aussi de Grillé, mais très peu Mademoiselle Blanche. » Méchant homme que je suis. Une fois mon premier étonnement passé, j'étais tout au plaisir du coup de foudre que nous allions ménager au général. J'étais aiguillonné, et j'allais en avant, tout joyeux. La famille du général occupait un appartement au 3e étage. Je ne fis prévenir personne. Je ne frappai même pas aux portes. J'ouvris brusquement, et la babouchka fut introduite comme en triomphe. Le hasard fit bien les choses. Ils étaient tous réunis dans le cabinet du général. Il était midi, on se disposait pour une partie de plaisir. Les uns devaient aller en voiture, les autres à cheval. Tout le monde était là. Sans compter Paulina, les enfants et leur bonne, et le général lui-même, il y avait 2 Grillé, Mademoiselle Blanche en Amazone, sa mère, Madame Veuve de Comminges, le petit prince, et un savant, un Allemand, que je voyais ce jour-là pour la première fois. On déposa le fauteuil de la babouchka juste au milieu du cabinet, à 3 pas de son neveu. Dieu, je n'oublierai jamais cette scène. Le général était en train de faire un récit que De Grillé rectifiait. Depuis 2 ou 3 jours, j'avais remarqué que Mademoiselle Blanche et De Grillé faisaient la cour au petit prince à la barbe du pauvre vieux. Tout le monde était de bonne humeur, factice pourtant. À la vue de la babouchka, le général resta comme foudroyé. Et la bouche bée s'arrêta au milieu d'un mot, les yeux agrandis, comme fascinée. La babouchka restait aussi silencieuse. Immobile. Mais quel regard! Quel regard triomphant, provoquant et railleur! Ils se regardèrent ainsi durant à peu près 10 secondes. Ce silence était extraordinaire. De Grillé laissa voir le premier un trouble singulier. Mademoiselle Blanche levait les sourcils, ouvrait la bouche et contemplait la babouchka d'un air effarouché. Le prince et le savant, très surpris, considérait ce tableau. Les yeux de Paulina exprimèrent d'abord un profond étonnement. Tout à coup, elle devint pâle comme un linge. Une minute après, le sang afflua à son visage et empourpra ses joues, puis elle pâlit encore. Oui, c'était une catastrophe pour tous. Monsieur Ashley se tenait à l'écart, tranquille, impassible comme toujours. « Eh bien, me voici, au lieu du télégramme. dit enfin la babouchka. « Quoi, vous ne m'attendiez pas ?»«
Antonida Vassilievna, chère tante, mais comment donc ?»
murmura le pauvre général. Si la babouchka avait plus longtemps gardé le silence, le malheureux homme serait certainement tombé, frappé d'apoplexie.
« Comment ? Eh, j'ai pris le train. Pourquoi donc sont faits les chemins de fer ? Vous me croyez tous déjà morte. Vous croyez déjà palper l'héritage. Je sais tous les télégrammes que tu as envoyés. Que d'argent ils ont dû te coûter. Eh bien, j'ai pris mes jambes à mon cou et me voici. C'est le français monsieur de Grillet, je crois.
Oui, madame, dit aussitôt de Grillet.
Et croyez bien, je suis si enchantée. Votre santé, c'est un miracle. Vous voir ici, une surprise charmante.
Oui, oui, charmante. Je te connais, Comélien. Mais je ne fais pas plus cas de tes paroles que...
Elle fit claquer avec le pouce l'ongle de son petit doigt.
Et ça, qui est-ce ? Demanda-t-elle en désignant de la main Mademoiselle Blanche. Cette jeune et élégante amazone avec sa cravache intriguait visiblement la babouchka.
« Est-elle d'ici ?»«
C'est Mademoiselle Blanche de Comminges, et voici sa mère, Madame de Comminges. Elles habitent ici, » lui répondis-je.
« Elle est mariée, la demoiselle ? »
demanda-t-elle sans autre cérémonie.
« Mademoiselle de Comminges est une jeune fille, »
répondis-je le plus humblement possible et à demi-voix.
« Elle est gaie ?»
Je fis semblant de n'avoir pas compris la question.
« On ne doit pas s'ennuyer avec elle. C'est elle le russe. De Grillet, lui, c'est un peu notre langue. »
Je lui expliquai que Mademoiselle de Comminges n'était venue qu'une fois en Russie.
« Bonjour !»
fit soudainement la babouchka, adressant la parole à Mademoiselle Blanche.
« Bonjour, madame, » dit Mademoiselle Blanche en faisant une gracieuse révérence. Elle affectait la plus extrême politesse, sans pouvoir dissimuler l'étonnement, presque l'effroi, que lui avait causé une interpellation aussi imprévue.
« Oh, elle baisse les yeux et fait la grimace. On devine vite quel oiseau c'est là. Quelque actrice !»
« J'ai pris mon appartement dans ton hôtel, » continua-t-elle en s'adressant au général.
« Je suis ta voisine. Cela te va-t-il ? » ?»«
Oh, ma tante, croyez à la sincérité de mon dévouement, de ma satisfaction. »
Le général commençait à reprendre ses esprits. Il savait, à l'occasion, affecter une certaine solennité qui ne manquait pas son effet.
« Nous étions si inquiets au sujet de votre santé. Nous recevions des télégrammes si désespérés. Mais voici... »«
Mensonge, mensonge !» interrompit brusquement la babouchka.
« Mais comment avez-vous pu ?»
se hâta de reprendre le général en faisant comme s'il n'avait pas entendu ce catégorique « mensonge ».«
Comment avez-vous pu vous décider à entreprendre un tel voyage ?»
« Convenez qu'à votre âge, dans l'état de votre santé,
certes, il y a lieu de s'étonner, et notre stupéfaction est pardonnable. Mais que me voilà content. Et nous sommes tous contents, et nous nous efforcerons de vous rendre la saison agréable. »«
Bon, bon, assez. Tout ce bavardage est inutile. Je n'ai pas besoin de vous tous pour avoir une saison agréable. » Et pourtant, je ne vous fuis pas. J'oublie le mal.
Bonjour, Praskovia. Et toi, que fais-tu ici ?
Bonjour, babouchka, dit Paulina en s'avançant. Et a-t-il longtemps que vous êtes partie ?
Voilà la première question raisonnable qui m'ait été adressée. Entendez-vous, vous autres ? Vois-tu, je m'ennuyais. « Rester couché, être soigné, attendre la guérison, non, j'en avais assez. J'ai mis tout mon monde à la porte, et j'ai appelé le sacristain de l'église de Saint-Nicolas.
Il avait guéri du même mal dont je souffre une certaine dame avec une liqueur extraite du foin. Et il m'a guéri, moi aussi. Le troisième jour, après une transpiration abondante, je me suis levée. Mes médecins allemands se sont de nouveau réunis, ont mis leurs lunettes et ont commencé de longues consultations. « Maintenant, me dirent-ils, allez aux eaux et vous serez tout à fait guéri. »« Pourquoi pas ? » pensais-je. En un jour, je fus prête, et c'est la semaine dernière que je me suis mise en route avec Potapitch et Fédor, mon laquais, dont je me suis défaite à Berlin car il m'était inutile. En effet, je prenais toujours un wagon à part, et quant à des porteurs, on en a partout pour 20 copecks. Quel bel appartement! Avec quoi paies-tu ça, mon petit père? Toute ta fortune est engagée, je le sais. Rien qu'au petit français, combien dois-tu? Je sais tout, je sais tout. Mais, chère tante, commença le général tout confus, mais je suis étonné, il me semble que je n'ai pas de contrôle à subir. Et d'ailleurs, mes dépenses ne dépassent pas mes moyens. Vraiment? Mais tu as volé jusqu'à tes enfants, toi, leur tuteur. Après de telles paroles, commença le général indigné, je ne sais vraiment plus. En effet, tu ne dois guère savoir que dire. Tu ne quittes pas la roulette, n'est-ce pas? On t'a mis à sec. Le général était si ému que la respiration allait lui manquer. « À la roulette? Moi? Avec mon grade? Moi? Mais vous êtes sans doute encore malade, ma tante. Revenez donc à vous. »« Comédie, comédie! Je suis sûre qu'on ne peut pas t'arracher de la roulette. Je veux voir, moi aussi, ce que c'est que cette roulette. Et dès aujourd'hui. Voyons, Praskovia, raconte-moi ce qu'il y a à voir. » Et toi aussi, Alexis Ivanovitch. Et toi, Potapitch, note bien tous les endroits où il faut aller. Il y a, tout près d'ici, les ruines d'un château, répondit Paulina. Puis il y a le Schlagenberg. Qu'est-ce que c'est, ce Schlagenberg? Une forêt? Non, une montagne. À ce moment, Fédosia vint présenter à la babouchka les enfants du général. « Oh, pas d'embrassade! Tous les enfants ont la morve au nez. Et toi, Fédosia, que deviens-tu? »« Mais je suis très heureuse ici, ma petite mère Antonida Vassilievna, » répondit Fédosia. « Comme nous étions affligés de votre maladie !»« Oui, je sais, tu es une âme naïve et bonne, toi. »« Et tout ça, » reprit-elle en s'adressant à Paulina, « ce sont des hôtes !» Ce vilain petit monsieur à lunettes, qui est-ce? Le prince Nilski, souffla Paulina à l'oreille de la babouchka. Ah, un russe! Je pensais qu'il ne me comprendrait pas. Il ne m'aura pas entendu. Et toi? Continua-t-elle en parlant au général. Es-tu toujours fâché? Comment donc, chère tante? Se hâta de répondre le général tout joyeux. « Je comprends si bien qu'à votre âge. »« Cette vieille est en enfance, » dit tout bas de Griller. « Veux-tu me donner Alexis Ivanovitch ?» continua-t-elle. « Volontiers. Et moi-même, et Paulina, et monsieur de Griller, nous sommes tous à vos ordres. »« Mais, madame, ce sera un plaisir, » dit de Griller avec un sourire aimable. « Un plaisir ?» « Tu es ridicule, mon petit père. D'ailleurs, » dit-elle brusquement au général, « ne compte pas que je te donne de l'argent. Et maintenant, portez-moi chez moi, et puis nous ressortirons. » On souleva de nouveau la babouchka, et tous descendirent derrière le fauteuil. Le général marchait comme un homme assommé. De Griller méditait. Mademoiselle Blanche fit d'abord mine de rester, puis se joignit au groupe. Le prince suivit. Il ne resta dans l'appartement du général que l'Allemand et Madame de Comminges. Chapitre 10. Aux eaux,
Les maîtres d'hôtel, quand ils assignent un appartement aux voyageurs, se fondent bien moins sur le désir de ceux-ci que sur leur propre appréciation. Et il faut remarquer qu'ils se trompent rarement. L'appartement de la babouchka était d'un luxe vraiment excessif. 4 magnifiques salons, une chambre de bain, 2 chambres pour les domestiques, une autre pour la dame de compagnie. On fit voir à la babouchka toutes ses chambres, qu'elle examina sévèrement. On avait inscrit sur le livre de l'hôtel « Madame la générale princesse de Tarasevitcheva ». De temps en temps, la babouchka se faisait arrêter, indiquer quelques meubles qui lui déplaisaient et poser des questions inattendues au maître d'hôtel qui commençait à perdre contenance. Par exemple, elle s'arrêtait devant un tableau, une médiocre copie de quelque célèbre composition mythologique, et disait « De qui ce portrait ?» Le maître d'hôtel répondait que ce devait être celui d'une certaine comtesse. « Comment ? De qui ? Pourquoi ne le sais-tu pas ? Et pourquoi louche-t-elle » Le maître d'hôtel ne savait que dire. « Sot !» dit la babouchka en russe. Enfin, la babouchka concentra toute son attention sur le lit de sa chambre à coucher. « C'est bien, » dit-elle. « C'est riche. Faites donc voir. » On défit un peu le lit. « Davantage, ôtez les oreillers, soulevez les matelas. » La babouchka examina tout attentivement. « Pas de punaise ? Bien. Enlevez tout le linge et qu'on mette le mien et mes oreillers. « Tout ça est trop riche, qu'en ferais-je ? Je m'ennuierais seule là-dedans. Alexis Ivanovitch, tu viendras chez moi souvent, quand tu auras fini de donner la leçon aux enfants. »« Mais, répondis-je, depuis hier je ne suis plus au service du général. Je vis ici à mon compte. »« Pourquoi donc ? » ?»« Voici, il y a quelques jours sont arrivés de Berlin un illustre baron et sa femme. » Hier, à la promenade, je leur ai dit quelques paroles en allemand, mais sans arriver à reproduire exactement la prononciation de Berlin. Et alors ? Le baron a pris cela pour une injure, et s'est plaint au général, qui m'a donné congé. Mais quoi ? Tu l'as donc réellement injurié ? Et puis, quand tu l'aurais injurié ? Non, c'est au contraire le baron qui m'a menacé de sa canne. « Mais es-tu donc si lâche, toi, que tu permettes de traiter ainsi ton Hochitel ? » dit-elle violemment au général. « Et tu l'as chassé ? Imbécile ! Vous êtes tous des imbéciles ! Tous !»« Ne vous inquiétez pas, ma tante, » répondit le général, non sans hauteur. « Je sais me conduire. D'ailleurs, Alexis Ivanovitch ne vous a pas raconté la chose très exactement. » « Et toi, tu as supporté cela ? » continua-t-elle en revenant à moi. « Moi, je voulais demander au baron une réparation d'honneur, » répondis-je avec tranquillité. « Le général s'y est opposé. »« Et pourquoi t'y es-tu opposé ? » ?»« Mais excusez, ma tante, les duels ne sont pas permis, » dit le général en souriant. « Comment pas permis ? » Et le moyen d'empêcher les hommes de se battre. Vous êtes des sots. Vous ne savez pas défendre le nom de russe que vous portez. Allons, soulevez-moi. Et toi, Alexis Ivanovitch, ne manque pas de me montrer ce baron à la promenade. Ce fond baron. Et la roulette, où est-elle ? J'expliquai que la roulette se trouvait dans le salon de la gare. Elle me demanda alors s'il y avait beaucoup de joueurs, si le jeu durait toute la journée, en quoi consistait le jeu. Je répondis enfin qu'il valait mieux qu'elle vît la chose de ses propres yeux, car la meilleure explication n'en pourrait donner qu'une idée très imparfaite. « Eh bien, menez-moi tout de suite à la gare. Marche devant, Alexis Ivanovitch. » « Comment, ma tante, vous ne prendrez pas d'abord un peu de repos ?» Le général et tous les siens semblaient inquiets. Il redoutait quelque excentricité publique de la babouchka. Cependant, ils avaient tous promis de l'accompagner. « Je ne suis pas fatiguée.
Voilà 5 jours que je n'ai pas bougé. Nous irons visiter les sources, et puis ce Schlagenberg. »
« C'est bien cela, » dit Praskovia.
« Oui, Babouchka. »
« Et qu'y a-t-il encore à voir ?»«
Beaucoup de choses, Babouchka, » dit Paulina avec un air embarrassé.
« Oui, je te vois, tu ne sais pas toi-même. Marfa, tu viendras avec moi à la roulette, »
dit-elle à sa dame de compagnie.
« Mais cela ne se peut pas, ma tante. On ne laissera entrer ni Marfa ni Potapitch. »
« Quelle bêtise! Parce que c'est un domestique?
Mais c'est un homme tout de même, et je suis sûre qu'il désire aussi voir tout cela. Et avec qui pourrait-il y aller, si ce n'est avec moi? »
« Mais, Babouchka, as-tu honte de moi? Reste, on ne te demande pas de venir. Vois-tu ce général?
Mais je suis général moi-même. Et en effet, tu as raison, je n'ai pas besoin de toute cette suite. » « Alexis Ivanovitch me suffira. »
Mais De Grier insista pour que tout le monde accompagnât la Babouchka, et il trouva quelques mots aimables sur le plaisir tout particulier, etc. On se mit en route.
« Elle est tombée en enfance !» répétait De Grier au général.
« Si on la laisse aller seule, elle fera des folies !» Je n'entendis pas le reste de la conversation. Mais, évidemment, De Grier avait déjà de nouveaux projets et reprenait espoir. Il y avait une demi-verste de l'hôtel jusqu'à la gare. Le général était un peu rassuré. Pourtant, il craignait visiblement la roulette.
Qu'allait faire là une vieille impotente?
Paulina et Mademoiselle Blanche marchaient chacune d'un côté du fauteuil. Mademoiselle Blanche était gaie, ou du moins affectée de l'être. Paulina s'efforçait de satisfaire la curiosité de la vieille dame qui l'accablait de questions. Monsieur Ashley me dit à l'oreille « La matinée ne s'achèvera pas sans incident. » Potapitch et Marfa se tenaient derrière le fauteuil. Le général et De Grier, un peu à l'écart, causaient avec animation. Ce dernier semblait donner des conseils.
Mais que faire contre la terrible phrase de la Babouchka ? Je ne te donnerai rien.
Et le général connaissait bien sa tante. Il n'avait plus d'espoir. De Grier et Mademoiselle Blanche faisaient des signes. Nous fîmes à la gare une entrée triomphale. Les domestiques de l'endroit montrèrent autant d'empressement que ceux de l'hôtel. La Babouchka commença par ordonner qu'on la portât dans tous les salons. Enfin, on arriva à la salle de jeu. Les laquais qui gardaient les portes les ouvrirent à 2 battants. À l'extrémité de la salle, où se trouvait la table de 30 et 40, se pressaient de 100 à 200 joueurs. Ceux qui parvenaient jusqu'aux chaises de cette table sacrée ne guittaient guère leur place avant d'avoir perdu tout leur argent. Car il n'était pas permis d'occuper ce rang en simple spectateur. Ceux qui se tenaient debout attendaient leur tour. Quelques-uns même pontaient par-dessus les têtes des joueurs assis. Du 3e rang, il y avait des habiles qui réussissaient à poser leur mise. On se disputait à propos de mises égarées, car il arrive qu'un filou se glisse parmi tous ces honnêtes gens et prenne sous leurs yeux une mise qui ne lui appartient pas, en disant « C'est la mienne ». Les témoins sont indécis, le voleur est habile et surtout effronté. Il empoche la somme. La Babouchka regardait tout cela de loin, avec la curiosité d'une paysanne presque sauvage. Ce fut surtout la roulette qui lui plut. Enfin, elle voulut voir le jeu de plus près. Comment cela se passa-t-il? Je ne sais. Le fait est que les laquais, très empressés, des Polonais, ruinés pour la plupart, lui trouvèrent aussitôt une place, malgré l'affluence extraordinaire des joueurs. On posa le fauteuil à côté du principal croupier. On se pressa contre la table pour mieux voir la Babouchka. Les croupiers fondaient quelque espérance sur un joueur si excentrique, une vieille femme paralysée. Je me mis auprès d'elle. Les nôtres restèrent parmi les spectateurs. La babouchka regarda d'abord les joueurs. Un jeune homme surtout l'intéressa. Il jouait gros jeux, de fortes sommes, et avait déjà gagné une 40 000 francs amoncelés devant lui en pièces d'or et en billets. Il était pâle, ses yeux étincelaient, ses mains tremblaient. Il pontait sans compter, à pleine main, et il gagnait toujours. Les laquais s'agitaient derrière lui, lui offraient un fauteuil, lui faisaient de la place, dans l'espérance d'un riche pourboire. Près de lui était assis un petit Polonais qui se démenait de toutes ses forces et humblement ne cessait de lui parler à l'oreille, le conseillant sans doute pour ses mises, régularisant son jeu, lui aussi dans l'espérance d'une rémunération. Mais le joueur ne le regardait ni ne l'écoutait, pontait au hasard et gagnait. La babouchka l'observa pendant quelques instants. « Dis-lui donc, » fit-elle tout à coup en s'adressant à moi, « dis-lui donc de quitter le jeu et de s'en aller avec son gain, car s'il continue, il va perdre tout, il va tout perdre d'un coup. » La respiration lui manquait tant elle était agitée. « Où est Potapitch ? Envoie-lui Potapitch, entends-tu ? » Elle me poussait du coude. « Où est-il donc, ce Potapitch ? Sortez, allez-vous-en » cria-t-elle elle-même au jeune homme. Je me penchai vers elle et lui dis d'un ton assez bref que ses manières n'étaient pas admises à la table de jeu, qu'il n'y est même pas permis de parler à haute voix, qu'on allait nous mettre à la porte. « Quel dommage ! Il est perdu, ce pauvre garçon ! Mais il y travaille, certes, lui-même. Je ne puis pas le regarder sans dépit. Quel sot !» Et la babouchka se tourna d'un autre côté. À gauche, à l'autre extrémité de la table, on remarquait parmi les joueurs une jeune dame accompagnée d'un très petit homme. Qui était cette espèce de nain ? Peut-être un parent ? Ou bien s'en faisait-elle suivre pour attirer l'attention ? J'avais déjà vu cette dame. Elle venait régulièrement à la gare à 1 heure de l'après-midi et partait ensuite à 2. Elle avait son fauteuil marqué. Elle sortait de sa poche une certaine quantité de pièces d'or, plusieurs billets de 1 000, et pontait tranquillement, froidement, en calculant et en cherchant, au moyen d'opérations tracées au crayon sur son calepin, à supputer les probabilités de perte ou de gain. Ses mises étaient grosses. Elle gagnait tous les jours 2 000, quelquefois 3 000 francs, et s'en allait aussitôt. La babouchka la regarda longtemps. « Ah, celle-ci ne perdra pas, » dit-elle. « Qui est-ce ? »
« Une Française, probablement, »
lui répondis-je tout bas. « Ah, cela se voit. Explique-moi maintenant la marche du jeu. » Je lui donnai les explications le plus claires possible sur les nombreuses combinaisons de rouge et noir, pair et impair, manque et passe, et sur les diverses nuances des systèmes de chiffres. Elle écoutait attentivement, questionnait sans cesse et se pénétrait de mes réponses.
« Et que signifie le zéro ? »
Le croupier principal a crié tout à l'heure « zéro » et a ramassé toutes les mises. Qu'est-ce que ça signifie ?
Le zéro, babouchka, et pour la banque, toutes les mises lui appartiennent quand c'est sur le zéro que tombe la petite boule.
Ah, et personne alors ne gagne.
Le banquier seulement. Pourtant, si vous aviez ponté sur le zéro, on vous paierait 35 fois votre mise.
Et cela arrive souvent ?
Pourquoi ne pontent-ils donc jamais sur le zéro, ces imbéciles ?
« Parce qu'on n'a qu'une chance contre 35. »«
Quelle bêtise ! Potapitch !
Mais non, j'ai mon argent sur moi. »
Elle tira de sa poche une bourse bien garnie et elle y prit un florin.
« Là, mets-le tout de suite sur le zéro. »«
Babouchka, le zéro vient de sortir. C'est un mauvais moment pour jouer sur ce chiffre. Attendez. »«
Qu'est-ce que tu racontes ? Mets où je te dis ?»
« Soit, mais le zéro peut ne plus sortir aujourd'hui, et si vous vous entêtez, vous pouvez y mettre 1 000 florins. »«
Des bêtises ! Quand on craint le loup, on ne va pas au bois.
C'est perdu ? mais encore. »
Le deuxième florin fut perdu comme le premier. J'en mis un troisième. La babouchka ne tenait pas en place. Elle semblait vouloir fasciner la petite boule qui sautait sur les rayons de la roue. Le troisième florin fut encore perdu. La babouchka était hors de soi. Elle donna un coup de poing sur la table quand le croupier appela 36 au lieu du zéro attendu.
« Canaille ! » s'écrie-t-elle. « Ce maudit petit zéro ne veut donc pas sortir. Je veux rester jusqu'à ce qu'il sorte. C'est ce scélérat de croupier qui l'empêche de sortir. Alexis Ivanovitch, mets 2 louis d'or à la fois. Autrement, nous ne gagnerions rien, même si le zéro sortait. »
« Babouchka !
Mais, ce n'est pas ton argent !»
Je mis les 2 louis. La petite boule roula longtemps et enfin se mit à sauter plus doucement sur les rayons. La babouchka était comme hypnotisée et serrait ma main. Tout à coup, boum !
« Zéro !» cria le croupier. « Tu vois ? Tu vois ?»
dit vivement la babouchka toute rayonnante. « C'est Dieu lui-même qui m'a donné l'idée de mettre 2 louis. Combien vais-je avoir ? Pourquoi ne me donne-t-il pas d'argent ? Potapitch ! Marfa ! Où sont-ils ? Où sont les nôtres, Potapitch ?»«
Babouchka, Potapitch est à la porte. On ne l'a pas laissé entrer. Voyez, on vous paye. Prenez !»
On jetait à la babouchka un gros rouleau de 50 louis enveloppé dans du papier bleu, 20 louis en monnaie. Je ramassai le tout devant la babouchka.
« Faites le jeu, messieurs, faites le jeu, rien ne va plus !»
cria le croupier au moment de mettre en branle la roulette.
« Dieu, nous sommes en retard, mais donc vite !»«
Où ?»
« Sur le zéro, encore sur le zéro. Et mets le plus possible. Combien avons-nous gagné ?
70 louis.
Pourquoi garder cela ? Mets 20 louis à la fois. »
« Mais vous n'y pensez pas, babouchka. Il peut rester 200 fois sans sortir. Vous y perdrez votre fortune. »
« Mensonge, bêtise. Mais, te dis-je, assez parlé, je sais ce que je fais. »
D'après le règlement, on ne peut mettre plus de 12 louis sur le zéro. Voilà, j'ai mis les 12.
Et pourquoi ? Ne me fais-tu pas des histoires ?
Monsieur, cria-t-elle en poussant le coude du croupier, combien sur le zéro ?
12 ?
12 ? Je me hâtai d'expliquer la chose en français.
Oui, madame, répondit avec politesse le croupier.
« De même que chaque mise ne doit pas dépasser 4 000 florins. C'est le règlement. »«
Alors c'est bien, va pour 12. »«
Le jeu est fait !» cria le croupier. La roue tourna et le nombre 13 sortit.
« Perdu !»« Encore, encore, encore !»
Je ne résistai plus. Je ne fis que hausser les épaules et je mis 12 nouveaux louis. La roue tourna longtemps. La babouchka tremblait. Espère-t-elle sérieusement que le zéro va encore sortir ? Me demandai-je avec étonnement. L'assurance décisive du gain rayonnait sur son visage. La petite boule tomba dans la cage.
« Zéro ! »
cria le croupier.
« Quoi ? Eh bien, tu vois ! »
me dit la babouchka avec une indescriptible expression de triomphe. J'étais moi-même joueur. Jamais je ne le sentis plus qu'en cet instant. Mes mains frémissaient, la tête me tournait. Certes, le cas était rare. 3 zéros sur 10 coups. Pourtant, cela n'était pas extraordinaire. 3 jours auparavant, j'avais vu le zéro sortir 3 fois de suite. Tout le monde rivalisa d'amabilité pour la babouchka. On lui régla son gain avec humilité. Elle avait à recevoir 420 louis, c'est-à-dire 4 000 florins et 20 louis. Cette fois-ci, la babouchka n'appela plus Potapitch. Elle ne tremblait plus, extérieurement du moins. Elle tremblait, pour ainsi dire, intérieurement.
Alexis Ivanovitch, il a dit qu'on peut mettre 4 000 florins, n'est-ce pas ? Eh, mets les 4 000 sur le rouge.
La roue tourna.
« Rouge !»
cria le croupier. Cela faisait donc en tout 8000 florins.
« Donne-moi 4000 et mets les 4000 sur le rouge. »
J'obéis.
« Rouge !»«
Ça fait 12. Donne-les-moi. Mets l'or dans ma bourse et cache les billets. En voilà assez. Rentrons. »
Chapitre 11. On roula vers la porte le fauteuil de la babouchka. Elle était rayonnante. Tous les nôtres la félicitèrent. Malgré son excentricité, son triomphe semblait lui avoir fait une auréole. Et le général ne craignait plus de se montrer en public avec elle. Avec une familiarité souriante, il adressa à la babouchka des compliments pareils à ceux qu'on donne à un enfant. Visiblement, il était étonné, comme tous les autres assistants, qui parlaient entre eux en se montrant la babouchka. Plusieurs s'approchèrent pour la mieux voir. Monsieur Ashley parlait d'elle avec deux de ses compatriotes. Les dames l'examinaient avec curiosité. De Griller était aux petits soins pour elle.
« Quelle victoire !» disait-il. « Mais madame, c'était du feu !»
ajouta avec un sourire obséquieux Mademoiselle Blanche.
« Eh oui, voilà, j'ai gagné 12000 florins. Sans compter l'or. Avec l'or, ça doit faire 13. 6000 roubles de votre monnaie, hein ?»«
Plus de 7000, lui dis-je. Peut-être 8 au cours actuel. »
« Ce n'est pas une plaisanterie, 8000 roubles.
Potapitch, Marfa, avez-vous vu ?»«
Ma petite mère, mais comment avez-vous fait ?»
s'exclama Marfa.
« 8000 roubles !»«
Voilà 5 louis pour chacun de vous. » Potapitch et Marfa se précipitèrent pour lui baiser les mains.
« Donne 1 louis à chacun des porteurs, Alexis Ivanovitch. Ce sont des laquais, ces gens-là, qui me saluent ?»
« Donne-leur 1 louis à chacun. »«
Madame la princesse, un pauvre expatrié, un malheur continuel, ces princes russes sont si généreux !»
C'était un homme vêtu d'un veston usé, d'un gilet de couleur, qui tournait autour du fauteuil en tenant sa casquette très haut au-dessus de sa tête.
« Donne-lui aussi 1 louis. Non, 2 louis. Assez, maintenant, nous n'en finirions plus. » « Levez-moi et marchons. »
« Praskovia, je t'achèterai demain une robe. »
« Et à l'autre comment donc ?»«
Mademoiselle Blanche, je lui achèterai aussi une robe. » »«
Dis-le-lui en français, Praskovia. »
« Merci, madame, » fit Mademoiselle Blanche avec un sourire ironique et gracieux, en clignant de l'œil à De Griller et au général. Le général ne dissimulait pas son embarras et poussa un soupir de soulagement quand nous arrivâmes à l'hôtel.
« Evedosia ! »
s'écria la babouchka en se rappelant la vieille bonne du général.
« Elle aussi va être étonnée. Je veux aussi lui acheter une robe.
Alexis Ivanovitch, donne donc quelque chose à ce mendiant.
Et toi, Alexis Ivanovitch, tu n'as pas encore tenté ta chance ? » ?»«
Non. Je voyais pourtant bien tes yeux étinceler. »
« J'essaierai, babouchka, plus tard. »«
Et ponte seulement sur le zéro, tu verras.
Combien as-tu d'argent ?»«
20 louis, babouchka. »«
Ce n'est pas assez, je t'en prêterai 50, moi, si tu veux. Prends ce rouleau-là. »«
Et toi, mon petit père ? » dit-elle tout à coup au général.
« N'y compte pas, c'est inutile, tu n'auras rien. »
Le général eut une crispation singulière. De Griller fronça le sourcil.
« La terrible vieille !»
dit-il entre ses dents au général.
« Un autre mendiant ! Un mendiant !» cria la babouchka. « Donne-lui aussi 1 florin !»
Cette fois-ci, c'était un personnage très vieux, avec une jambe de bois, une longue redingote bleue et qui s'appuyait sur une canne pour marcher. On eût dit un vieux soldat. Mais quand je lui offris 1 florin, il fit un pas en arrière et me regarda avec colère.
« Vasiste, der Teufel !»«
Qu'est-ce que c'est ? Que diable ! » dit-il. et il me gratifia d'une dizaine d'injures.
« L'imbécile !»
cria la babouchka en me faisant signe de le laisser là.
« Allons, j'ai faim. Il faut dîner tout de suite. Je dormirai un peu, et puis nous retournerons à la roulette. »
« Vous voulez y retourner, babouchka ? » m'écriai-je.
« Et pourquoi pas ?
Parce que vous restez ici à vous ennuyer, il faut que je fasse comme vous. »«
Mais madame, » dit De Griller, « les chances peuvent tourner. Vous pouvez tout perdre d'un seul coup, surtout avec votre jeu. C'était terrible. »«
Vous perdrez certainement, » miaula Mademoiselle Blanche.
« Eh, qu'est-ce que ça vous fait ? Ce n'est pas votre argent que je perdrai, c'est le mien. Et où est Monsieur Hatchley ?
Il est resté à la gare, babouchka.
C'est dommage, c'est un brave garçon.
En arrivant à l'hôtel, la babouchka appela le majordome et lui apprit son gain. Puis elle appela Fédosia, lui donna 3 louis et demanda à dîner.
Alexis Ivanovitch, sois prêt vers 4 heures. Nous irons ensemble à la roulette.
En attendant, au revoir. Et n'oublie pas de m'amener quelques docteurs. Il faut que je prenne les os. Je sortis de chez la babouchka comme étourdi. Je tâchais de m'imaginer quelle tournure allaient prendre les affaires. Le général et les autres étaient déconcertés. L'arrivée inattendue de la babouchka avait détruit toutes leurs espérances. Cependant, l'aventure de la roulette était pour eux plus importante encore. Car, quoique la babouchka eût dit 2 fois qu'elle ne donnerait pas d'argent au général, du moins ils conservaient encore un dernier espoir. Mais maintenant, après les exploits de la vieille dame à la roulette, maintenant peut-être tout était bien compromis. Chaque louis qu'elle risquait était comme un coup de couteau dans le cœur du général. C'était extrêmement dangereux. Toutes ces réflexions m'agitaient tandis que je regagnais ma chambre au dernier étage de l'hôtel. Et je ne connaissais pas tous les facteurs du problème que je voulais résoudre. Paulina ne m'avait jamais parlé avec une entière franchise. Presque toujours, après m'avoir fait quelques confidences, elle les tournait en ridicule et me jurait que tout cela était faux. Toutefois, je pressentais que le mystère touchait à sa fin. Ma propre destinée ne m'intéressait presque pas. Étrange disposition d'esprit. Je ne possédais que 20 louis. J'étais parmi des étrangers, sans position, sans moyen d'existence, sans espérance. Et pourtant, je n'avais à mon propre sujet aucun souci. N'eût été mon inquiétude à propos de Paulina, j'aurais ri bien volontiers en me demandant quel devait être le dénouement de tout ceci. Je sentais que la destinée de cette jeune fille était en jeu, mais je dois avouer que ce n'était pas sa destinée qui m'inquiétait le plus. C'était son secret. J'aurais voulu la voir venir à moi et me dire « Tu sais bien que je t'aime. » Mais s'il n'en est rien, alors... que désirer désormais ? Sais-je au juste ce que je désire ? Je voudrais ne jamais la quitter, vivre dans son orbite, dans sa lumière, pour toujours, pour toute la vie. Je n'ai plus une seule autre pensée. Je ne pourrais même pas vivre loin d'elle. Au 3e étage, dans le corridor du général, je ressentis comme une secousse intérieure. Je me retournai et à 20 pas, j'aperçus Paulina. Évidemment, elle m'attendait. Dès qu'elle me vit, elle me fit signe de m'approcher. « Paulina Alexandrovna ?
Chut !
Imaginez-vous, dis-je à voix basse, que je viens de sentir une secousse. Je me retourne, je vous vois. Est-ce qu'il émane de vous un fluide électrique ?
Prenez cette lettre,
dit-elle d'un air soucieux, probablement sans avoir entendu mes paroles. « Et remettez-la à Monsieur Hatchley, tout de suite, je vous en prie. N'attendez pas de réponse, lui-même... »
Elle n'acheva pas.
« À Monsieur Hatchley ? » demandai-je avec étonnement. Mais Paulina avait déjà disparu. Ah, ils s'écrivent.
Je courus, cela va sans dire, chez Monsieur Ashley. Il n'était ni à son hôtel ni à la gare. Enfin, je le rencontrai au milieu d'une cavalcade d'anglaises et d'anglaises. Je lui fis signe, il s'arrêta, et je lui remis la lettre. Nous n'eûmes pas même le temps de nous regarder, mais je soupçonne Monsieur Ashley d'avoir fouetté exprès son cheval. Étais-je torturé par la jalousie? En tout cas, mon humeur était exécrable. Je n'aurais pas voulu connaître le sujet de leur correspondance. Un ami, pensais-je, c'est clair. Un amant? Certainement non, me disait la raison. Mais la raison est peu de chose dans ces sortes d'affaires. Il y avait encore un point à élucider. L'affaire se compliquait. À peine eus-je le temps de rentrer à l'hôtel que le concierge et le majordome m'informèrent qu'on était déjà venu me chercher trois fois de la part du général. Chez le général, je trouvai, outre le général lui-même, De Griers et Mademoiselle Blanche, celle-ci sans sa mère. Décidément, cette mère n'était qu'un personnage de parade. Tous les trois discutaient avec chaleur. La porte du cabinet, chose anormale, était fermée. J'entendis, avant d'entrer, De Griers qui parlait à haute voix et d'un ton persifleur. Mademoiselle Blanche avait le verbe injurieux. Le général suppliait, son accent était larmoyant. À ma vue, ils se turent subitement. De Griers sourit tout à coup de ce sourire français, officiellement aimable, que je déteste. Le général se redressa machinalement. Seule Mademoiselle Blanche conserva sa physionomie irritée. Pourtant, elle fixa sur moi un regard d'attente impatiente. D'ordinaire, elle faisait semblant de ne pas me voir. Alexis Ivanovitch, commença le général avec une bienveillance marquée, et permettez-moi de vous déclarer qu'il est étrange, très étrange, en un mot, que votre conduite à mon égard et à l'égard de toute ma famille, en un mot, c'est étrange, excessivement étrange.
Ce n'est pas cela, interrompit De Griers avec mépris et dépit.
Non, cher monsieur, notre cher général se trompe en prenant ce ton. Il voulait vous dire, c'est-à-dire vous prévenir, ou vous parler plus justement, vous prier instamment de ne pas consommer sa perte. Eh bien, oui, de ne pas le perdre. J'emploie avec intention ce mot.
Mais comment ? Interrompis-je. Que voulez-vous dire ?
Eh bien, vous vous êtes constitué le mentor de cette terrible vieille. Considérez donc qu'elle va se ruiner. Vous avez vu vous-même comment elle joue. Si elle commence à perdre, elle ne quittera plus la roulette par entêtement. Elle jouera toujours. Et vous savez qu'on ne répare pas ainsi ses pertes. Et alors, alors, reprit le général, vous me perdez, moi et ma famille, qui sommes ses héritiers. Elle n'a pas de plus proches parents que nous. Je vous parle franchement. Nos affaires vont mal, très mal. Vous deviez d'ailleurs vous en douter déjà. Si elle fait des pertes considérables, oh Dieu, que deviendrons-nous ? Le général se tourna vers De Griers. « Alexis Ivanovitch, sauvez-nous ! Sauvez-nous !»«
Mais, général, que puis-je en tout ceci ?
Refusez-vous à la guider et abandonnez-la. »«
Mais un autre prendra ma place ?»«
Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça !» interrompit De Griers. « Que diable, non, ne l'abandonnez pas, mais plutôt persuadez-la !» Ne la laissez pas risquer trop d'argent.
Mais comment le pourrais-je faire? Essayez donc vous-même, monsieur De Griers,
ajoutai-je avec l'expression la plus naïve que je pus. Je surpris à ce moment un regard expressif et interrogateur de Mademoiselle Blanche à De Griers. De Griers lui-même laissa voir une émotion qu'il ne put maîtriser.
Allons donc, elle ne m'écouterait pas maintenant. S'écria-t-il avec un geste désespéré. Ah, si, après.
Oh, mon cher Alexis, soyez assez bon, me dit à son tour Mademoiselle Blanche elle-même, en me serrant fortement les deux mains.
Que le diable l'emporte! Cette figure de démon s'avait changée en un instant. Elle était alors si charmante, si enfant, si espiègle. Elle me lança encore un regard furtif que les autres ne purent voir. Que voulait-elle? Mais c'était un peu trop primitif et trop simple.
Alexis Ivanovitch, reprit le général, pardonnez-moi le ton que j'ai pris tout à l'heure. Ce n'est pas ainsi que je voulais vous parler.
Je vous en prie, je vous en supplie, laissez-moi vous saluer jusqu'à la ceinture, à la russe. Vous seul pouvez nous sauver. Mademoiselle de Comminges et moi, nous vous supplions. Comprenez, comprenez donc,
ajouta-t-il en me montrant du coin de l'œil Mademoiselle Blanche.
Il était dégoûtant.
Trois coups discrets furent frappés à la porte. C'était un domestique qui précédait Potapitch. Tous deux étaient envoyés par la babouchka. On me cherchait. On me voulait tout de suite. « On se fâche !» me dit Potapitch.
« Mais il n'est pas 3h30. »«
Elles n'ont pas pu s'endormir. Elles étaient agitées. Puis elles se sont levées, ont demandé le fauteuil et ont envoyé vous chercher. Elles vous attendent sur le perron. »«
Quelle mégère !» s'écria de Griller.
En effet, la babouchka m'attendait. Elle était hors d'elle-même d'impatience. Nous allâmes aussitôt à la roulette.